Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et bye bye, dit la presse française sur un ton de blues. Yes, we did it, s'exclame au contraire la presse britannique pro-Brexit. Car aujourd'hui, pour la dernière fois, les Britanniques se réveillent en étant citoyens de l'Union européenne. Ils quittent l'UE ce soir après 47 ans d'Union. Les matins et Guillaume Erner sont en direct de la BBC à Londres. Et juste après ce journal, Guillaume, vous poserez la question du jour. Le Mexit est-il le signe d'une monarchie en crise? Question que vous poserez à Richard Vinen, professeur d'histoire contemporaine au King's College de Londres. Mais avant cela, à la une encore, le virus qui a déjà fait 212 morts en Chine, urgence internationale pour l'OMS. 200 Français sont rapatriés aujourd'hui. Ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce ce matin sa candidature comme tête de liste aux élections municipales au Havre. S'il est élu dans sa ville, il restera tout de même à Matignon. De son côté, François Fillon exclut tout retour à la politique. « Je ne chercherai pas à revenir », a affirmé hier soir sur France 2 l'ex-candidat à la présidentielle, à quelques semaines de son procès pour détournement de fonds publics. C'est à minuit sur le continent, 11 o'clock Greenwich Time, que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, plus de 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit. Une sortie de l'UE plébiscitée à près de 70% à Doncaster, dans le Yorkshire, une ville toujours marquée par la crise minière des années 70 et les milliers d'emplois supprimés depuis les années Thatcher. Le Brexit, source d'espoir pour ses habitants, espoir de se relever économiquement, l'occasion d'un renouveau national, comme le promet le Premier ministre Boris Johnson. Le reportage à Doncaster de Marie-Pierre Véraud.
Ces jours de marché à Doncaster, une rareté qui n'arrive plus que 3 fois par semaine. La ville a bien essayé de se relever de la crise minière des années Thatcher, mais elle reste rongée par la pauvreté. Alors, quand le référendum sur le Brexit a eu lieu, toutes les frustrations, tous les espoirs d'un changement aussi se sont mêlés pour assurer une très large victoire au Leave. 3 ans et demi plus tard, la motivation reste intacte et l'impatience de Wayne, le boucher, aussi.
Je suis heureux qu'on sorte. Ça fait combien de temps? 2-3 ans à faire des histoires? Le Parti travailliste a tout fait pour retarder le Brexit et tout gâcher. Je suis heureux qu'on en sorte maintenant. Il y aura moins d'immigration, j'espère. Il y a trop de gens qui sont arrivés. Les hôpitaux sont pleins, les écoles aussi. Ils ont laissé rentrer trop de monde et ils s'étonnent que notre système de santé s'écroule. Il faut réduire l'immigration.
Tout à côté, son voisin poissonnier Nigel Barry a lui aussi voté pour le Brexit. Mais assure-t-il, ce n'était pas contre l'Europe.
Nous ne quittons pas l'Europe, mais nous quittons l'Union européenne. Et c'est très différent. Pour moi, l'Union européenne, c'est un gaspillage d'argent et ce n'est absolument pas démocratique. Regardez les commissaires européens. Vous ne votez pas pour eux. Vous ne pouvez pas les chasser. Une fois qu'ils ont le boulot, c'est pour la vie. Ce n'est pas juste. Ils sont comme un État dans l'État. Les Britanniques aiment toujours l'Europe. C'est juste l'Union européenne que nous ne pouvons pas supporter.
La Grande-Bretagne prend donc le large, mais même dans cette terre brexiteuse, l'heure n'est pas aux réjouissances. La vie reste trop rude à Doncaster, explique Karen.
La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va récupérer notre terre. Je ne sais pas si ce sera mieux, seul le temps nous le dira.
Doncaster a bien plébiscité le Brexit dans les urnes et revoterait sans doute de la même manière, mais n'a pas le cœur en ce jour historique à faire la fête.
Marie-Pierre Véraud à Doncaster en Angleterre, et c'est dans ce nord ouvrier à Sunderland que le Premier ministre Boris Johnson prendra la parole ce soir dans un discours à la nation où l'on sait déjà qu'il parlera d'un vrai renouveau et d'un changement national pour le Royaume-Uni à l'occasion du Brexit. Un clap de fin qui n'en est pas vraiment un puisqu'une période de transition s'ouvre jusqu'au 31 décembre prochain pour définir de nouveaux liens entre Londres et Bruxelles après 47 ans d'union. Des discussions qui vont forcément redessiner le pays financier entre la City et les autres places boursières. Analyse de Stéphane Giordano, il préside l'association des marchés financiers qui regroupe les courtiers et les banques d'investissement.
Depuis qu'on a mis en place le passeport européen, c'est-à-dire la capacité pour tout acteur au sein de l'Union européenne de servir les clients au sein des autres pays de l'Union européenne, il y avait eu un mouvement de concentration de la place financière européenne à Londres. Londres qui concentrait dans un certain nombre de domaines, jusqu'à 80% des ressources. Il va y avoir nécessairement une redistribution. Pour l'Europe, c'est une question assez existentielle en réalité. Est-ce que on veut concevoir le marché européen essentiellement comme un marché de consommateurs, auquel cas il faudrait garder l'accès plus ouvert pour la place de Londres, ou est-ce qu'on veut y voir l'opportunité de davantage de construction européenne, d'un approfondissement de la construction européenne dans le domaine des marchés financiers, auquel cas il faut gérer les choses dans la durée, mais promouvoir le développement de marchés européens suffisamment intégrés et in fine relativement autonomes pour le financement de l'Union européenne. Encore une fois, dans cette opposition entre la vision plus européiste ou plus consumériste, tous les pays membres ne sont pas complètement alignés. La France est plutôt sur une vision d'intégration et de construction européenne. D'autres pays considèrent que la priorité doit être à la satisfaction des besoins des consommateurs et des investisseurs, et donc à l'ouverture des marchés.
Stéphane Giordano, président de l'Association des marchés financiers, au micro de Marie Viennot. C'est désormais une urgence sanitaire de portée mondiale. L'épidémie de coronavirus qui a tué 212 Chinois et contaminé près de 10 000 personnes et est désormais une source d'inquiétude mondiale pour l'OMS. Alors que 200 Français ont quitté cette nuit le foyer de l'épidémie en Chine, 200 Français rapatriés de Wuhan, ils doivent atterrir à Marseille aujourd'hui, mis en quarantaine, ensuite dans un centre de vacances réquisitionné à Carry-le-Rouet, Olivier Martoc.
Selon le préfet de région, Pierre Dartout, aucun des Français rapatriés ne présente de symptômes de la maladie. Mais tous ont cependant dû accepter la mise en quarantaine de 14 jours qui les attend.
Ah oui, nous ne pouvons pas sortir. Ils signent cet engagement. Et cet engagement fait l'objet d'un arrêté de notre part. Et donc nous considérons qu'ils seront tous responsables. Et cette opération est aussi un acte de solidarité, il ne faut pas l'oublier.
Ces hommes, ces femmes et même ces enfants ne seront pas confinés à l'intérieur de leur appartement. Ils pourront sortir, jouer au tennis ou à la pétanque et même descendre sur la plage, à condition de porter des masques. Ils seront encadrés durant tout leur séjour par 22 bénévoles du service sanitaire. Philippe Demaster, directeur de l'Agence régionale de santé.
Infirmiers, infectiologues, psychologues vont assurer une présence 24 heures sur 24 auprès des résidents, de sorte à ce qu'ils trouvent d'abord l'assistance médicale qui est nécessaire, l'accompagnement psychologique dont ils auront besoin, et puis aussi, si des signes devaient se manifester, tout de suite prendre les dispositions et donc orienter ces personnes vers l'IHU qui les prendra en charge sur le plan médical.
Le pôle d'infectiologie de la Timone a en effet été mis en alerte dès hier soir.
Alors que l'OMS décrétait donc l'urgence internationale, un sixième cas d'infection au coronavirus a été annoncé hier soir par les autorités sanitaires françaises. Il s'agit d'un médecin libéral à Paris contaminé par un patient asiatique. Premier cas avéré donc de contamination d'un personnel soignant sur le sol français. Il est 7h07 sur France Culture. Édouard Philippe se lance dans la bataille pour les municipales. Le Premier ministre est candidat à la mairie du Havre comme tête de liste. Il l'annonce ce matin dans un entretien au quotidien Paris-Normandie. Mais l'ex-maire du Havre, entre 2010 et 2017, indique qu'il restera à Matignon s'il est élu. Il laissera la place à un membre de sa liste. Lui l'a confirmé, il a bien quitté la vie publique. Mais il a tout de même choisi de sortir du silence 3 ans après sa présidentielle ratée et à quelques semaines du procès qu'il a attend pour détournement de fonds publics. François Fillon était hier soir l'invité de l'émission politique Vous avez la parole sur France 2. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2017 est venu donc s'expliquer sur ses regrets. Il a reconnu des erreurs, mais il estime que sur le plan judiciaire, il n'a rien à se reprocher. Stéphane Robert.
François Fillon l'a répété hier soir à maintes reprises, il n'était pas là pour amorcer un quelconque retour en politique.
J'ai quitté la vie publique après cet échec à l'élection présidentielle et donc je le dis tout de suite, dès le début de notre émission, je ne chercherai pas à revenir.
Il était venu pour s'expliquer et dans un premier temps pour exprimer des regrets.
Évidemment que je regrette ce qui s'est passé. Et il y a des reproches que je me fais, mais pas justement sur les sujets qui me sont reprochés par la justice. Sur ces sujets-là, je n'ai pas de reproche à me faire.
Parce que concernant ce qui lui vaut un procès en justice, à savoir les soupçons de détournement d'argent public, l'ex-candidat à la présidentielle estime ne pas être coupable.
L'emploi de mon épouse a été déclaré. Donc on n'est pas du tout dans une situation qui serait contraire à la transparence, où les choses seraient cachées.
La question n'est pas celle de l'emploi, mais de savoir si l'emploi était fictif ou réel.
Mais il n'est pas fictif, et les preuves ont été apportées, elles seront apportées au cours du procès, et j'espère qu'enfin, on voudra bien les concevoir.
Il a cependant reconnu des erreurs, notamment le fait d'avoir accepté les costumes offerts par Robert Bourgi, ou encore d'avoir directement mis en cause Nicolas Sarkozy avec cette phrase « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?» Ça, c'était une erreur pour François Fillon, et donc hier soir, il n'a voulu mettre en cause personne, pas même les journalistes.
Ce que je demande, c'est d'être jugé comme tout le monde, d'être jugé avec équité. J'ai sûrement commis des erreurs,
Mais il y a une chose que je ne peux pas supporter, c'est qu'on pense que je suis malhonnête ou que j'ai cherché à tricher ou à tromper les Français.
François Fillon a tenté hier soir de dépassionner cette affaire, manière pour lui peut-être d'anticiper, avec la perspective de ce procès, un douloureux retour dans la lumière médiatique.
Trois des principaux syndicats de policiers se sont insurgés hier contre le choix d'Emmanuel Macron de poser avec un t-shirt dénonçant les violences policières. T-shirt offert par le dessinateur Jules lors du festival de la BD d'Angoulême. T-shirt représentant un fauve et borgné, détournant ainsi la récompense attribuée à ce festival. Sous le dessin est écrit LBD 2020, référence au lanceur de balles de défense et à l'acronyme également choisi pour l'année de la BD. Entre coups de crayon et coup de colère sur la profession, cette fois, c'est le thème de notre reportage interactif du vendredi à retrouver à 7h24, hashtag MaBD, sur les difficultés des autrices et auteurs de BD à vivre de leur métier. Le gouvernement a réuni hier les partenaires sociaux pour lancer la conférence de financement sur le nouveau système de retraite. Si les syndicats contestataires continuent à rejeter la réforme et tentent de mobiliser encore dans la rue, les organisations réformistes comme la CFDT cherchent, elles, au contraire, une solution pour éviter le retour de l'âge pivot à 64 ans. Le Premier ministre Édouard Philippe espère aboutir à un compromis et le chantier ne fait que commencer, Anne-Laure Jumet.
Selon Laurent Berger, ce n'est pas encore le temps des propositions. Le secrétaire général de la CFDT, qui avait réclamé cette conférence de financement, n'a pas voulu rentrer dans le vif du sujet. Tout juste a-t-il expliqué qu'il pourrait demander aux administrations des éléments chiffrés pour se déterminer. D'autres participants ont au contraire avancé des pistes pour équilibrer le régime. On ne pourra échapper à une mesure d'âge, a ainsi répété le patronat Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF.
Une fois qu'on aura les simulations, des propositions de solutions pour ce financement, mais qui de toute façon, et je ne vous surprendrai pas en disant ça, tourneront autour de mesures d'âge, peut-être différenciées, peut-être modulées, mais autour de mesures d'âge.
Un avis qui n'est évidemment pas partagé par les syndicats. Du côté des opposants à la réforme, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, estime qu'il sera très difficile de trouver un compromis.
Des vents très contraires ont soufflé dans la salle et je peux vous dire que, à mon avis, la conférence en question va être ballottée par des courants très opposés également, et je vois mal comment elle pourra arriver à bon port.
Maintenant, les partenaires sociaux vont rentrer dans le dur. Deux groupes de travail sont prévus, l'un sur l'équilibre à court terme, à horizon 2027, l'autre sur la gouvernance et l'équilibre moyen-long terme, avec pour objectif donc d'aboutir au mois d'avril.
Martinique, Guadeloupe et Guyane deviennent les seuls territoires français à être privés d'un quotidien. La liquidation judiciaire annoncée hier de France Antilles entraîne la disparition immédiate des trois éditions du journal et le chômage pour les 235 salariés du groupe. Le temps de ce vendredi 31 janvier, couvert sur l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 11 degrés.